pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch, Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine to do with as thou wishest.
Cela faisait un petit moment déjà que je souhaitais évoquer avec vous un personnage mystérieux de l'univers d'Elden Ring, un personnage seulement mentionné, mais jamais montré, le fameux Mandesprit. Cette vidéo n'était pas prévue pour arriver aussi vite, mais l'annonce récente du DLC Shadow of the Erdtree et la diffusion de cet artwork qui a fait couler tant d'encre ont quelque peu accéléré les choses. Sur cette image, on aperçoit un personnage que nous avons plus ou moins tous associé assez rapidement à Mikaela. Autour de lui, de nombreuses tombes fantomatiques, que l'on pourrait associer à des esprits errants, et la présence de notre fidèle destrier, Torrent. Il n'en fallait pas plus pour commencer à débattre de la possibilité que Mikaela soit l'ancien propriétaire de Torrent mentionné par Rani. Mais bien avant ça, un autre débat existait déjà, celui de savoir si le créateur et premier propriétaire de Torrent était oui ou non le personnage connu sous le nom de Mandesprit, si tant est que ce terme désigne bien une personne en particulier. Une figure qui serait alors derrière la création de la cloche du Mandesprit, objet que nous remet Rani au même moment et qui nous permet d'invoquer les souvenirs de personnes ou entités disparues. Une question s'impose alors. Aux nombreuses identités déjà connues de Mikaela, pourrait-on rajouter celle du Mandesprit? C'est une possibilité, mais rien aujourd'hui ne nous permet de l'affirmer avec certitude. Cela ne nous empêchera pas, au cours de cette vidéo, de dessiner les contours de ce mystérieux personnage. Alors hello à tous, c'est Ludic, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'histoire énigmatique du Mandesprit. Allons au plus simple, il existe dans le monde d'Elden Ring trois éléments portant le nom de Mandesprit. La cloche du Mandesprit, que nous remet Rani et qui nous permet d'invoquer, la grotte du Mandesprit, que vous pourrez explorer à la cime des géants, et l'escargot Mandesprit, ennemi que vous affronterez à plusieurs reprises lors de votre exploration de l'Entre-Terre. Arrêtons-nous quelques instants sur cette créature, que vous croiserez sous sa forme de boss à deux reprises. Une fois dans les catacombes de l'impasse en Liurnia, et la seconde dans la grotte éponyme en cime des géants. Mais on tombera également sur des versions plus mineures de l'escargot Mandesprit, notamment dans les catacombes de Leyndell ou vers l'arbre sacré de Mikaela. Intéressant d'ailleurs d'attester de sa présence à l'arbre sacré, au vu de ce que je mentionnais dans mon introduction et de l'éventualité que Mikaela puisse être le Mandesprit. La faculté de ces escargots, ils peuvent invoquer de multiples entités à leur côté qui nous attaqueront. Difficile cependant de tirer quelque chose de ces invocations. Chevalier du Creuset, Sanctechair, Cristallien, bien que vous le verrez, dans le cas de la grotte du Mandesprit, c'est peut-être un poil plus intéressant, mais nous y reviendrons. Attention cependant, car il existe dans le monde d'Elden Ring d'autres espèces d'escargots. Les escargots squelettes, qui en lieu et place de leur coquille présentent un crâne, ou les escargots de cristal, capables de projeter de la glace. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la symbolique et l'iconographie de l'escargot, et elle est sacrément intéressante. De tout temps, l'escargot a été considéré comme un symbole du sexe féminin, un symbole de fertilité, mais aussi de fécondité virginale, cet animal étant hermaphrodite, ce qui n'est pas sans nous rappeler des personnages comme Malenia ou Marika. Mais de par sa coquille en spirale, il est également symbole de l'évolution temporelle, du cycle, une thématique là encore extrêmement présente dans les jeux From Software. De plus, l'escargot est une figure christique. Il s'enferme tous les ans dans sa coquille pendant l'hiver pour réapparaître à proximité de Pâques, rappelant la mort et la résurrection du Sauveur. Tiens, tiens, ça me fait justement penser à quelqu'un. Lorsqu'il se déplace, l'escargot laisse derrière lui un fluide argenté, sa bave, tandis que les proportions parfaites de sa coquille se basent sur le fameux nombre d'or. Or et argent, toujours des thématiques très chères à Elden Ring. Enfin, l'escargot est un symbole universellement lunaire, qui indique la régénération périodique, ses antennes se baissant et se levant comme la lune apparaît et disparaît, évoquant des thèmes comme la mort, la renaissance et l'éternel retour. Alors c'est bien joli, toutes ces informations sur les escargots, mais avez-vous prêté attention à un détail qui est loin d'être anodin les concernant ? Eh bien, en vérité, ces escargots ne sont pas réellement des escargots, puisqu'ils possèdent en réalité des corps de serpents. Et là, ça devient plus qu'intéressant, car ça rend beaucoup moins anodin la présence des sanctechairs dans la grotte du Mont d'Esprit. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez assidûment la chaîne, d'ailleurs pensez à vous abonner pour ne rien louper, sinon je glisse un escargot, ou plutôt un serpent sous votre couette. Vous n'êtes pas sans savoir donc que les apôtres et nobles sanctechaires possèdent respectivement un cou et une queue de serpent, attestant d'un possible lien avec la divinité Ophique. Ainsi, on peut penser que l'origine des escargots Mont d'Esprit soit à aller chercher du côté du serpent dévoreur qui a fusionné avec Rykard. D'autant plus qu'en battant cet escargot dans la grotte du Mont d'Esprit, on récupère la lange sanctechaire, tissu dans lequel la reine aux yeux crépusculaires emmaillotait les futurs apôtres. Pour ce qui est de l'inspiration en tout cas, il ne fait quasiment aucun doute que ces escargots serpents tirent leur influence du Tsushinoko, un cryptide légendaire du Japon. Le Tsushinoko est dépeint comme une sorte de serpent faisant entre 30 et 80 cm de long, mais dont la partie digestive est considérablement plus grosse que sa tête ou sa queue. Certains récits disent également que le Tsushinoko pourrait sauter d'environ 1 mètre de longueur, et ça tombe bien puisque nos escargots d'Elden Ring disposent justement d'une attaque aérienne d'envergure. Enfin, d'après la légende, l'animal avalerait quelquefois sa propre queue pour former un anneau similaire au symbole de l'Ouroboros dans la mythologie grecque, et c'est très intéressant. Figurez-vous qu'à l'annonce du DLC Shadow of the Erdtree, certaines personnes ont étudié la calligraphie du titre, remarquant que la lettre O pourrait s'apparenter soit à la rune de restauration du prince de la mort, soit justement à un serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros. Croyez-moi, il n'y a jamais aucun hasard avec From Software. J'ai beau avoir mentionné un lien possible entre les escargots et la divinité Ophique, pour ce qui est du personnage du Mont d'Esprit en lui-même, j'ai toujours été persuadé qu'il puisse être en lien avec les Nox. Ces derniers étaient des précurseurs en termes de magie, et l'utilisation des larmes d'argent, ou mimiques, était déjà des invocations avant l'heure. Autre élément qui en atteste, Torrent, votre monture, qui de par son apparence de bouquetin, rappelle fortement les serfs et disciples ancestraux des villes éternelles. Si on part du principe que le Mont d'Esprit est le créateur ou premier propriétaire de Torrent, tout laisse à penser qu'il est donc en lien avec les Nox et les cités éternelles. D'ailleurs, dans la grotte du Mont d'Esprit, on remarque au sol une espèce d'eau argentée, qui fait selon moi directement écho aux villes éternelles, et au liquide projeté par les serfs ancestraux. Dans le même ordre d'idées, les loups solitaires invoqués par les escargots, qui eux font écho aux premières cendres d'invocation que Rani nous donne après nous avoir remis la cloche du Mont d'Esprit. Vous seriez alors en droit de me rétorquer, mais attends Ludic, Tu nous parles du Mans d'Esprit, des escargots, du Prince de la Mort, des Sanctes de Chair, de la Reine aux yeux crépusculaires, des Nox, et c'est vrai qu'on serait tenté de penser que tous ces éléments évoquent des choses très différentes. Pour autant, il se pourrait qu'en réalité, ces thématiques forment un tout bien plus cohérent que ce que l'on pouvait imaginer à la base. Après tout, le crépuscule ne désigne-t-il pas l'avènement de la nuit, si cher aux Nox et aux villes éternelles ? Mais je pourrais aussi vous reparler des serfs ancestraux, et de la façon dont vous allez communier avec leurs cadavres pour rentrer en contact avec eux. N'est-ce pas exactement de la même manière que vous allez pénétrer la psyché de Godwin pour y affronter Fortissax ? Enfin, toujours concernant Torrent, je rappelle qu'il porte le nom de Destrier Spectral, et ce n'est pas anodin dans la mesure où l'on récupère en Liurnia un objet du nom de cloche Mans de Spectre. On y lit que, d'après la rumeur, les spectres seraient des esprits vengeurs qui trépassèrent sous l'effet d'une malédiction. Anecdote intéressante, mais cette cloche se récupère à proximité de la catacombe de l'Impasse, où se trouve justement l'un des boss escargoments d'esprit qui initialement, dans les premières versions du jeu, portait le nom d'escargot Mans de Spectre. Cela prouve donc que From Software est particulièrement attaché à ces notions, et qu'il pourrait exister une corrélation ou opposition entre le monde des esprits incarné par Mikaela et le monde des spectres incarné par Godwin, et c'est justement ce dont on va parler dans la dernière partie. Ça tomberait sous le sens de faire quelque chose comme ça où on explore les rêves de Mikaela, parce que le champ des possibles est infini. C'est-à-dire que le fait d'explorer les rêves de Mikaela n'engage à rien et ne va rien changer de l'histoire de base. On n'a pas besoin de revenir dans le passé ou au contraire d'aller loin dans le futur. Si on explore les rêves de Mikaela, c'est le contexte, l'excuse parfaite pour en apprendre plus sur le passé de l'Entre-Terre. On pourrait par exemple en apprendre plus sur des époques comme, je sais pas, la nuit des couteaux noirs, ou ce qui s'est passé à l'éclatement, ou croiser des personnages comme Godwin un peu plus jeune. Voilà, c'est le champ des possibles est totalement infini, et ça n'impliquerait pas des modifications sur l'histoire de base du jeu. Vous l'avez compris si vous suivez mon propos, mais je pense qu'il est fort probable que la notion de Mans d'Esprit soit de nouveau explorée dans le futur DLC. D'autant plus si on est amené à explorer les mondes oniriques. Qui dit monde des rêves, dit potentiellement monde des esprits et apparition de Mikaela et Godwin. D'ailleurs, je ne l'avais pas précisé dans ma vidéo, mais sur cet artwork, on aperçoit bien ce qui semble être un arbre en enserrant un autre. Ainsi, on pourrait être dans un monde parallèle, un monde inversé de celui de l'Entre-Terre, dans lequel Godwin et Samalmor prennent le pas sur l'arbre-monde, obligeant Mikaela à intervenir. Cela peut paraître fou, mais le monde des esprits est déjà évoqué dans Elden Ring, et il a même un nom, Elfen. Sur l'arme clochée d'Elfen, on peut lire que ce dernier fut érigé pour guider les morts dans le monde des esprits. Il y a donc de fortes chances que le DLC nous permette d'explorer cet Elfen. Pour ce qui est des liens entre Mikaela et Godwin, ils sont déjà évidents si vous avez regardé ma vidéo sur Mikaela, ou celle sur les sans-âmes. Pour rappel, on croise au sommet de Sol Castell un esprit nous apprenant que Mikaela portait un intérêt tout particulier au culte de l'éclipse. C'est d'ailleurs à Sol Castell que l'on trouve l'arme Chautel de l'éclipse, dont la forme rappelle fortement celle de la rune de Godwin. La question est de savoir ce que cherchait véritablement Mikaela. Souhaite-t-il ressusciter Godwin ou veut-il s'opposer à lui ? Nouvelle anecdote, mais quand vous vous approchez justement de Sol Castell, vous croisez un Nocher diaphane, entité liée à Godwin et à la Malmor. Ce dernier invoque des immenses squelettes vous attaquant à vue, et est entouré et protégé par, je vous le donne en mille, des escargots. Mikaela, Godwin, le Mans d'Esprit, les escargots, c'est comme si le jeu tentait à tout prix de nous faire comprendre que tous ces éléments sont en vérité reliés, mais sans jamais nous le dire clairement. J'imagine en tout cas que les réponses commenceront à nous apparaître dans le futur DLC, en espérant qu'elles laissent tout de même une petite part de mystère. J'ai en tout cas pris un immense plaisir à vous proposer cette vidéo, et suite à l'annonce du DLC, je pense que c'était le moment parfait pour faire le point et aborder tous ces sujets. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez le soutenir en faisant un petit tour sur la page Utip, le lien est en description. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, ciao !